Si on parle de ce qu'est être ornithologue aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des façons d'être hier et avant-hier, forcément. Alors être ornithologue avant-hier, c'était se promener dans la verte campagne ou dans les marais avec un fusil, hein. Et puis, tiens, l'oiseau que je connais pas, pam! Voilà, amassé, récupère notre oiseau. Effectivement, je ne le connaissais pas. Alors, je le pose, je le décris sous toutes les coutures, je le dessine. Si vous regardez des vieilles gravures d'oiseaux, notamment les dessins de Audubon, hein, le grand aquarelliste américain de la fin du 18e, vous allez remarquer que très souvent, l'oiseau il est dessiné de profil, mais par contre, son croupion, on le voit de dessus. Ça, c'est typique du dessin qui a été fait à partir d'un oiseau mort. Parce que forcément, il se tient un peu flasque, hein, le pauvre. Et cet écart, cette déformation, cette distorsion graphique, on la retrouve beaucoup chez les naturalistes de cette époque. Donc voilà, c'est une approche, hein. Donc voilà, j'ai mon oiseau, je l'ai bien dessiné, je l'empaille, je mets une petite étiquette, spécimen collecté le temps, et je la mets dans un tiroir. Et ensuite, elle finit dans une belle vitrine en acajou, où généralement on la trouve encore dans les muséums d'histoire naturelle, sous une épaisse couche de poussière. Et puis voilà, comme ça, on peut savoir qu'autrefois, eh ben, là, il y avait des pigriages à poitrine rose dans toute la France. On a collecté plein de spécimens à coups de fusil, donc on a transféré un nombre assez considérable d'oiseaux des milieux naturels vers des vitrines en acajou. Voilà, ça c'était être ornithologue il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans. Après, hier, on a commencé à avoir des jumelles, on a commencé à avoir des guides aussi beaucoup plus rudimentaires que celui-là, où les oiseaux avaient l'air eux aussi d'être empaillés. Alors, ils n'avaient quand même pas le croupion vu de dessus, mais toutes les mésanges étaient au garde-à-vous sur leurs branches. Les oiseaux en vol étaient représentés en noir et blanc. Bref, donc voilà, hein, on regarde, et puis on se plonge dans le guide, et qu'est-ce que c'est? Et puis à la fin, je suis très content d'avoir vu cette espèce pour la première fois. Je fais une petite croix, ça s'appelle cocher. Voilà, j'ai coché l'espèce. Et puis, je suis content, je fais mon petit compte-rendu de sortie dans la revue de mon centre ornithologique des amis de l'écologie du Val de Trembouze. Et puis après 20 ans de ça, eh ben, je vais publier un article sur l'ornithologie du Val de Trembouze ou un atlas des oiseaux des monts du Trembouzan supérieur et ensuite des oiseaux du Rhône. Et voilà comment ça a commencé à devenir un petit peu scientifique, hein, comme j'expliquais ce matin, avec beaucoup de cartes faites à la main, avec des feuilles de papier calque et de la Roneo à alcool, parce que on avait un peu que ça. On a commencé à affiner des méthodologies un peu plus scientifiques de comptage des oiseaux. C'est celle que j'ai juste pu effleurer dans mes diapos ce matin, comme l'indice ponctuel d'abondance ou l'indice kilométrique d'abondance. Donc ça, c'est des méthodos qui ont été développés par les labos en Bourgogne, hein, Bernard Frochot et toute cette équipe d'ornithologues-là. J'ai eu la chance d'avoir Frochot comme prof peu avant sa retraite. Donc ça consiste, au lieu de devoir tout, absolument tout compter, tous les oiseaux d'une forêt, ce qu'on n'a généralement pas les moyens de faire, à échantillonner, soit par des points, soit par des tracés, ce qu'on appelle des transectes, et en répétant toujours les mêmes transectes d'année en année, ou toujours des transectes à la même date mais dans différents milieux, on va pouvoir comparer de manière relativement précise les populations d'oiseaux entre différents milieux, différentes régions, différentes époques. Et donc ça, c'était dans les années 70. Ces méthodes ont commencé à sortir des labos de recherche vers les associations qui ont donc commencé à faire du travail beaucoup plus scientifique. Et le premier atlas des oiseaux nicheurs de France est sorti en 76, ce qui veut dire qu'avant, on n'a qu'une connaissance assez floue de la répartition des espèces dans notre pays. On a des publications régionales. On a des listes d'espèces, alors pas forcément d'ailleurs très très fiables. Hein. Il y a quelques fois, dans les articles des années 30 ou 50, le gars vous jure, c'est grand Dieu, que telle espèce, le faucon émerillon, niche régulièrement en Franche-Comté. Non, l'émerillon, il n'a jamais niché en France. C'est un faucon très nordique qu'on ne voit chez nous qu'en hiver. Mais voilà, il n'était pas encore très très capable de l'identifier, ils n'avaient pas non plus des bonnes jumelles, ça non plus, c'est pas des bonnes jumelles, c'est pas mes jumelles de boulot ordinaire. Mais voilà, du coup, ces références anciennes, il faut les prendre avec un peu de circonspection, ce qui fait que nos connaissances vraiment fiables sur l'avifaune de nos régions, elles commencent vraiment à partir des années 70. Avant, il faut se contenter de mentions du genre très commun, sauf en Corse, ou voilà, ça va pas très très loin. En termes d'effectifs, n'en parlons pas. Et donc, maintenant, un ornithologue, il continue cette tradition-là, mais avec des outils quand même de plus en plus précis. Et surtout, maintenant, un ornithologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la biodiversité beaucoup plus dans son ensemble, même si le groupe, le taxon qui s'est identifié en priorité, c'est les oiseaux, parce que c'est quand même l'un des plus simples, hein, il faut bien le dire, les plus faciles à observer, les plus faciles à identifier. Les mammifères, c'est facile à identifier, sauf les micro-mammifères, hein, les musaraignes et tout ça, c'est l'horreur. Par contre, c'est pas facile d'en voir. Les chauves-souris, c'est l'enfer. Il faut des détecteurs qui coûtent une fortune et des sonogrammes. Les insectes, il faut capturer, il faut les mettre sous la loupe, il faut passer par une clé de détermination où vous devez vérifier si le tibia arrière droit présente une dent noire au niveau de sa quatrième machin, et sinon, si la dent est noire mais avec un anneau blanc, c'est l'espèce truc, sinon c'est l'espèce machin. Bref, les oiseaux, c'est vachement plus simple. C'est pas toujours très simple, mais c'est le groupe le plus accessible. Donc la plupart des naturalistes sont ornithologues. Ce qui n'empêche que donc on se définit non plus comme ornithologue, mais comme naturaliste. Quand on dit un naturaliste, une asso naturaliste, ça veut dire simplement quelqu'un qui s'occupe d'écologie spécifiquement sur le domaine de la biodiversité. Toutes les associations, comme la LPO, mais comme tous leurs équivalents allemands, suisses ou de toutes les régions françaises, se sont déclarées naturalistes, on va dire, au début du siècle. Ça faisait longtemps, en fait, qu'on avait compris que pour protéger efficacement les oiseaux, il faut déjà protéger leur milieu, et que du coup, on va protéger d'autres taxons. Et qu'en tout cas, toutes les préoccupations vont converger, et donc qu'elle faisait du travail naturaliste sans le dire. Mais du coup, on l'a indiqué clairement dans les statuts de ces assos, ce qui leur a permis, quand elles avaient les compétences techniques, de proposer à leurs financeurs des missions explicitement sur les amphibiens, les reptiles, les mammifères, etc. Donc voilà, le mot d'ornithologue s'emploie de moins en moins. On dit naturaliste. Il y a encore des ornithologues qui s'occupent quasiment pas de protection. Il y en a de moins en moins. Parce que vu qu'il y a de moins en moins d'oiseaux aussi, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose si on veut encore en avoir à observer demain. Ces ornithos qui s'en foutent de la protection, il y a notamment ce qu'on appelle les cocheurs. Donc j'ai parlé de la coche tout à l'heure, hein. C'est l'aspect un peu collection de l'ornithologie. C'est des gens qui vont être très intéressés par le fait de voir une espèce qu'ils n'ont jamais vue, et notamment par la course aux raretés. Au moment des migrations, notamment migrations d'automne, on peut voir arriver des espèces qui n'ont rien à faire chez nous, en théorie, parce qu'elles ont été poussées par un coup de vent, parce que voilà, les conditions, il y a eu une tempête, ou des fois il y a des invasions d'espèces. D'espèces très nordiques, parce qu'il y a eu des très bonnes conditions de reproduction, il y a eu la plante qui les nourrit, qui a bien fructifié, tout ça. Donc, ils descendent en masse dans nos régions, ça se produit une fois tous les 30, 40 ans. Bref, il y a tout un tas de situations qui amènent chez nous des oiseaux qu'on voit très rarement. Alors, très rarement, ça veut dire qu'il y a certaines espèces qui ont été vues une fois, un seul spécimen, un jour, ou alors qui sont vues une fois tous les 4, 5 ans. Et donc nos cocheurs, quand ils apprennent que quelqu'un a vu ça, ils vont foncer pour aller la voir. Sauf s'ils ont déjà vu l'espèce, alors dans ce cas-là, rien à foutre. Vous dire, un pipite de Godlewski, 5 mentions en France, c'est banal. Ça veut dire qu'il l'a déjà vu une fois. Donc ces gens-là sont controversés dans la communauté naturaliste. Un, parce que c'est une activité quand même avec une certaine empreinte carbone, vu les kilomètres qu'ils font. Et deux, parce qu'il y en a certains qui ont été pris en flagrant délit, au sens propre, d'intrusion sur des réserves naturelles ou de dérangement d'oiseaux pour aller faire leur petite coche. Et donc, bah voilà quoi, c'est bien mignon d'aller de forcer la clôture d'une réserve naturelle pour aller cocher le phragmite aquatique, mais bon, si dans le même temps on fait zoner tous les autres piaf, c'est pas vraiment l'idée du siècle. Qui plus est, un migrateur qui vient de se taper bien contre son gré la traversée de l'Atlantique et qui échoue sur une plage de Vendée, s'il y a 10 andouilles qui vont le faire envoler en essayant de s'approcher pour faire une photo, au bout d'un moment, il ne va pas s'en remettre. Donc voilà, il y a cette problématique du dérangement. Néanmoins, ces chasseurs de rareté qui arpentent les secteurs les plus favorables à l'observation de ces espèces occasionnelles ont quand même eu un apport très important. C'est qu'on a découvert qu'en fin de compte, il y avait certaines espèces qui n'étaient pas si rarissimes que ça. Et qu'on en avait tous les ans un petit flux, aberrant par rapport au gros du flux, mais quand même régulier. Il y a une vingtaine d'années, la rareté par excellence, c'était le pouillot à grand sourcil. Le pouillot à grand sourcil, c'est un tout petit oiseau, ça ressemble, c'est un pouillot de petite taille, donc ça ressemble beaucoup à un roitelet. Et c'est un oiseau à l'origine qui est sibérien. Et tous les ans, on en voyait un ou deux, généralement sur Ouessant. Alors, Ouessant, c'est tout à l'ouest, la Sibérie, c'est tout à l'est. Mais les combinaisons des vents, des anticyclones, tout ça font que quand même, quand il y a un pouillot à grand sourcil en France, c'est en priorité sur la façade atlantique qui va être trouvé, et pas seulement pour des raisons de pression d'observation. C'est-à-dire pas seulement parce qu'on le recherche là. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, on s'est aperçu que des pouillots à grand sourcil, on en voyait bien 50 à 100 dans toute la France chaque automne. Et que ça pouvait quand même plus passer pour un phénomène accidentel. Ça s'est reproduit pour un certain nombre d'espèces, et on a découvert qu'en fait, chez un certain nombre de migrateurs, il y avait tous les ans un contingent de piaf qui partait en migration à l'opposé du gros de la troupe, en l'occurrence pour le pouillot à grand sourcil vers l'ouest, au lieu d'aller à Katmandou et en Inde et plus bas. Et que c'était probablement quelque chose qui avait une signification, par exemple, comment dire, une assurance survie pour l'espèce, pour le cas où pour le gros de la troupe, sur la zone d'hivernage habituelle, ça se passerait vraiment très mal. Et ben voilà, il y a une petite députation qui est allée au cas où défricher un peu le terrain dans une autre zone. On a aussi des espèces qui migrent en boucle, c'est-à-dire qu'en automne, elles descendent d'un côté et au printemps, elles remontent de l'autre. C'est le cas du faucon cobèze, c'est un petit faucon, taille d'un faucon cresserelle, mais avec des jolis contrastes de gris et de rouge. En automne, il descend, donc il niche en Europe centrale. En automne, il descend par la mer Égée et le Bosphore, part en Afrique. Il chasse autant les gros insectes qu'autre chose, donc il part en Afrique. Et il remonte par chez nous. Ce qui fait que la plupart des observations de faucons cobèzes en Europe occidentale sont au printemps. Et là encore, on s'est aperçu que même si c'était que quelques dizaines de données, c'était assez régulier et que ce n'était pas du tout un truc complètement délirant. Donc voilà le genre de choses qu'on a découvert ces dernières années de ce point de vue. De ce point de vue, tous ces gens qui mettent une pression d'observation énorme sur les secteurs stratégiques en période de migration ont fait avancer pas mal de choses. Mais bon, le gros de l'ornithologie, c'est quand même pas la chasse aux raretés. C'est d'abord s'intéresser aux populations d'oiseaux là où elles se reproduisent, parce que c'est ce que représentent c'est ce qui va représenter les enjeux de protection les plus importants. Donc, c'est le rôle de la plupart des bénévoles engagés en asso et de la plupart aussi des salariés. Du coup, je vais aborder un petit peu comment on vient à faire de l'ornithologie son métier, parce que les cocheurs, en général, c'est pas leur métier. Ça nécessite pas mal de dispo, mais on n'est quand même pas payé pour aller cocher le pouillot à grand sourcil sur Ouessant, ça serait trop beau. Il n'y a pas vraiment de formation pour ça. Il commence un petit peu à y en avoir. Il y a une licence pro, inventaire, technique d'inventaire de la biodiversité, par exemple, qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Globalement, c'est quelque chose qu'on apprend surtout sur le terrain, en participant aux sorties de l'asso du coin. Donc, On commence à s'intéresser à la nature, souvent en étant abonné à la revue La Hulotte à l'âge de 8-10 ans. On se dit, tiens, je voudrais bien voir toutes les bêtes fabuleuses qui sont décrites là-dedans. C'est des bêtes fabuleuses, mais en fait, c'est des espèces généralement très communes autour de nous, donc pas très difficiles à découvrir. Et donc voilà comment, à 9 ans, j'ai dit à mes parents, je vais aller chercher des pelotes de réjection de rapaces. On a cherché des pelotes de réjection, on en a trouvé. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une pelote de réjection? Oui, bon, voilà. Non, il y en a combien? Bon. Un rapace, quand il se chope un campagnol ou un oiseau, selon ce qu'il est, il va pas nouer la serviette autour du cou, la découper, la cuisiner, il va avaler, oups, d'un coup, tous les poils, les os. Et du coup, une partie va sortir par en bas, et l'autre partie va ressortir par en haut. Les poils, les os, hop, ça va ressortir par le bec. Et ça forme ce qu'on appelle une pelote. Et c'est très pratique parce que si on récupère ces pelotes, eh ben on pourra savoir ce que le rapace a mangé. C'est comme ça qu'on a pu étudier le régime alimentaire des rapaces. Quand il s'agit d'un hibou grand-duc spécialisé dans la chasse aux hérissons, il y en a, c'est assez classique chez le grand-duc, ça s'appelle une bogue. On retrouve juste la peau du hérisson avec les piquants à l'extérieur. Ça va quand même faire. Bon. Non, en fait, la bogue, je rigole, il avale pas le hérisson avec les piquants. Il le dépèce et on retrouve que le reste. Mais par contre, il y a des beaucoup plus grosses proies qui peuvent avaler comme ça, parce que ça bouffe tout un grand-duc. Hein. Ça peut même manger un faucon pèlerin. Faucon pèlerin, c'est quand même comme ça. Donc voilà, là, on commence à aller rechercher des pelotes de réjection, on commence à essayer d'écouter chanter des crapauds accoucheurs dans la campagne, et puis après on va toquer à la porte de l'association, on va observer les oiseaux en faisant des sorties. Donc à 12 ans on fait des sorties, à 14 ans on les encadre, à 18 ans, alors à l'époque on est censé aller faire l'armée, et puis ben non on va pas y aller, donc on fait objecteur de conscience dans l'association, maintenant on dit service civique. Voilà, c'est ce que j'ai fait un peu après 18 ans quand même. Et puis, au bout d'un moment, on s'est suffisamment fait connaître de l'assaut, on s'est suffisamment investi pour rejoindre l'équipe permanente. Au niveau formation, beaucoup de mes collègues ont un BTS gestion et protection de la nature. C'était la formation la plus classique des naturalistes. Mais voilà, elle donne un cadre, elle donne des principes en écologie, en méthode d'inventaire, d'échantillonnage. Mais quand même, le gros du boulot, et notamment tout ce qui est apprendre à déterminer les bestioles et où on peut les trouver, ça c'est sur le terrain. De toute façon, ça pourrait difficilement s'apprendre dans un contexte universitaire. Et donc, en fait, la clé, c'est ça, c'est de pratiquer sur le terrain, d'aimer observer les bestioles. J'ai beaucoup parlé d'émerveillement cet après-midi. On observe, on est émerveillé de ce qu'on trouve, des comportements des espèces les plus communes, de l'araignée à toile géométrique qui dessine, qui construit sa toile, là, tac, 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 en posant la spirale, là, ou la gorge bleue qui chante, bon, cette gorge bleue, c'est quand même déjà assez exceptionnel, ou le faucon pèlerin en chasse, ou même le faucon cresserelle qui fait son vol sur place là, en Saint-Esprit, ou même la mésange qui se laisse observer de tout près, bref. Et plus on connaît, plus on sait où aller trouver encore et encore et encore des nouvelles espèces, et plus on en trouve, plus on s'émerveille, et plus on apprend encore à chercher, et c'est comme ça que ça s'enchaîne, et c'est comme ça qu'ensuite, en voyant tout ce qui disparaît, eh ben, on se lance dans la protection. On se lance dans des études déjà scientifiques, on participe à des démarches des comptages comme par exemple le comptage d'oiseaux d'eau Wetland International. Désolé, je speak English like a Spanish co. Donc c'est un comptage des oiseaux d'eau hivernants qui a lieu théoriquement dans le monde entier en même temps. En pratique, on compte les oiseaux d'eau sur un grand nombre de sites de référence, tous les grands lacs mais aussi les petits ensembles d'étangs. Le samedi le plus proche du 15 janvier, tout le monde compte en même temps. Pourquoi ? Parce que les oiseaux d'eau, en hiver, ils sont très mobiles. Selon que les plans d'eau gèlent, selon qu'ils ont épuisé les ressources alimentaires, selon qu'ils ont été dérangés par un prédateur à poil, à plume ou à botte aigle, ils vont sans arrêt se déplacer. Donc si on ne compte pas tous en même temps, on va avoir des chiffres complètement faux parce que les oiseaux se sont déplacés, se sont reportés, on les compte deux fois ou on oublie de les compter. Donc ça, c'est une des premières actions de comptage auxquelles, pour ma part, j'ai participé sur les plans d'eau bourguignons. Voilà, le comptage wetland, en plus, les canards en hiver, c'est relativement facile à identifier. Donc, on est un groupe qui se pose au bord du plan d'eau avec les longues vues, et puis on se répartit les différentes espèces et on compte. Alors, celui qui tombe sur la Fulke macro, où il y en a 4500, il a un petit peu plus de mal, surtout qu'en plus, ces saloperies, ça plonge tout le temps. Donc, on lui dit, bon, bah écoute, tu les comptes trois fois, et puis tu essayes de tomber trois fois sur le même chiffre. Moi, je compte les plongeons quatre marins, hein. Il y en a un. Bon, il y en a qui finissent par être foutus à l'eau dans ces cas-là. Mais voilà, les comptages wetland, du coup, nous donnent quand même une idée assez, assez intéressante, surtout que ça fait plus de 30 ans que ça se pratique, de l'évolution des peuplements d'oiseaux d'eau à l'échelle vraiment européenne. Donc là, on a un indice, des indices de l'état des populations de ces espèces à une échelle importante. Donc voilà, on n'est pas du tout, comme certains le disent, des bobos urbains enfermés dans notre bureau. Non, non, on va se cahier sur le terrain. C'est principalement au printemps. C'est vrai que c'est un métier qui nous amène à connaître tous les beaux coins au niveau nature d'un département, mais aussi aller faire du terrain dans des endroits un peu pourris. Hein, j'ai parlé des carrières plusieurs fois aujourd'hui, c'est pas toujours super passionnant de se tirer du lit le matin pour aller à 6h30 faire le tour de la carrière dans le vacarme des engins. Quand en plus c'est une très grande carrière, qu'il faut circuler avec sa petite voiture au milieu des engins, les roues montent jusque là, on ne fait pas le fier. C'est quand même des environnements assez dangereux. En plus, bah, c'est les salariés qui se tapent le terrain le plus pourri, parce qu'évidemment on laisse le meilleur aux bénévoles, sinon déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Si en plus on les démotive en les envoyant dans les coins... Donc on va aller sur les secteurs stratégiques en termes d'enjeux naturalistes, les espèces les plus importantes, les milieux les plus fragiles, et on va faire ces suivis. Donc une question qui revient souvent, c'est les assos, qui vous paye, qui vous finance, avec qui vous travaillez. Donc aux époques bénies, avant le début de ce siècle, on bénéficiait de subventions de fonctionnement. Elles n'étaient pas énormes, mais voilà, on avait des sous pour... et puis libre à nous de les utiliser pour nos actions. Ça fait longtemps que c'est fini. Maintenant, quand on travaille avec des collectivités locales, et c'est vrai que c'est le plus courant, parce que c'est quand même elles qui ont le plus besoin d'informations sur le patrimoine naturel, on va signer des conventions sur des missions très précises. Donc on va dire, voilà, on va consacrer tant de jours de terrain, tant de jours d'analyse de données, tant de jours de réunion de concertation sur le Dicnem criard. Le Dicnem criard, qui connaît le Dicnem criard?
Comment ça s'écrit?
O-E-D-I. Non. Personne ne connaît le Dicnem criard. Mais en même temps, c'est normal. Hein, bon, il est là, le Dicnem criard. Donc, ça, c'est un petit échassier à peu près de cette hauteur-là. Imaginez un courlis avec un bec beaucoup plus court. Un courlis avec un bec plus court. Donc, ça a des grandes pattes, plutôt dans les teintes ocre, striées, un gros œil, un petit bec court. Ça niche à terre. C'est typiquement une espèce pionnière. Vous vous rappelez la photo de la réserve du Val d'Allier, la grande courbe de fleuve là, ben lui il va venir nicher sur les étendues de gravier, mais il va aussi nicher dans les carrières, il va aussi nicher dans les chantiers, dans les zones industrielles en construction, en plein milieu. Donc c'est là qu'il faut le trouver et essayer de le sauvegarder. Donc voilà, j'en parle parce qu'en fait dans le Rhône et dans l'Est lyonnais, on en a encore des populations importantes au bord de la ville et on travaille beaucoup là-dessus. Donc voilà, on va donc proposer à notre collectivité, au Grand Lyon en l'occurrence, de mettre 4000 euros sur la protection de le Dicnem cette année-là, et ainsi de suite. Donc Là encore, régulièrement, on nous dit « vous recevez des millions de subventions ». La convention Grand Lyon LPO Rhône pour les études, chaque année, c'est 25 000 euros. Ce n'est pas non plus des montagnes. Donc on est obligé d'arbitrer très très strictement ce qu'on va pouvoir faire, vu qu'on a très peu de financement par ailleurs. Donc on travaille avec les collectivités, on travaille avec les privés, comme dans le cas des carrières, ou d'autres structures qui souhaitent prendre soin de la biodiversité sur leurs bâtiments, leurs parcs privés, tout ça. Où là, on va proposer un accompagnement, pose de nichoirs, plantation de végétation indigène, etc. Et donc, on va mener des actions de ce genre-là. On va aller sur le terrain, faire un comptage et un diagnostic écologique, et ensuite, ça va se décliner en préconisation de gestion pour dire voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, selon le contexte, ça va être poser des nichoirs ou laisser telle parcelle qui sera fauchée seulement au mois de septembre, ou là, ne pas exploiter la carrière ici, mais l'exploiter là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment très technique, très, un peu au coup par coup aussi. C'est pas facile d'avoir des actions pluriannuelles sur la durée à l'échelle d'un territoire. C'est pas facile d'être entendu, c'est pas facile de voir nos préconisations mises en œuvre. Donc, grosso modo, le métier, c'est ça. Donc, on a une saison de terrain qui représente peut-être 25% du temps de travail. Et après, le reste, c'est des analyses de données, des réunions, des concertations. Plus ça va, plus on utilise aussi les données de nos bénévoles. Parce que maintenant, on a des bases de données participatives qui permettent aux naturalistes non salariés de transmettre leurs saisies. Il y a ensuite des vérificateurs qui vont regarder les données au fil de l'eau. S'il y a quelque chose qui leur paraît bizarre, une espèce aberrante dans la saison, la localisation, tout ça, ils vont marquer la donnée et contacter l'observateur, ce qui nous permet donc d'avoir des données validées et finalement une masse de connaissances dont on ne disposait pas jusque-là. Et du coup, on commence à travailler un peu sur des analyses statistiques de ces masses de données qui sont recueillies du coup sans protocole, donc pas forcément comparables. Les gens ne vont pas prospecter tout un territoire de manière homogène. Ils vont se concentrer là où il y a plein de bêtes et puis il y a des zones qui vont rester blanches. Mais petit à petit, il y a tellement de données. Par exemple, sur le petit département du Rhône, on en voit arriver 120 000 par an. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il faut à peu près 2-3 minutes de terrain pour en produire une au minimum. Donc ça va nous donner des idées sur les fluctuations de population, là encore, les zones où telle espèce manque, ne manque pas, et nous aider, là encore, à fonder nos prises de position, à construire les fameuses listes rouges dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà l'essentiel de mon boulot. Donc dit comme ça, ça fait un peu austère. Après, il y a quand même le contact avec le terrain. C'est souvent voilà, un peu, ça devient presque un peu machinal par moment quand on est sur des sites pas très passionnants où il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Et puis, hop, il y a l'espèce que vous attendiez pas. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé ma petite maison jupée. Ou au contraire, celle qui est un peu rare mais que vous êtes content de retrouver tous les ans sur le même carré, le petit bruant jaune là sur sa clôture. Et là, même si vous avez que 5 minutes pour le point, vous allez quand même prendre le temps de le contempler. Il y a aussi des épisodes un petit peu plus, on va dire, aventureux. Par exemple, en Charente-Maritime, j'ai participé au comptage de héronnières dans les marais. Donc les hérons souvent nichent en colonies, enfin même quasiment tous. Souvent, c'est des colonies plurispécifiques. Donc, on va pouvoir avoir dans un même bois humide, donc coupé de canaux et tout, et envahi de ronces jusque-là, quelques centaines de nids de chaque espèce, de hérons cendrés, de hérons pourprés, des grès de garzette, de hérons garde-bœufs. Bon, quelques centaines, ça, pas se contenter de ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, au mois de juin, on se réunit une équipe et on y va, et on compte. Et donc, on crapahute dans nos ronces jusque-là. Et on essaye de regarder. Alors, il y a un gars qui s'enfonce dans un fourré. Il revient, il me dit 37 000 degrés, 25 de garde-meue. Et moi, j'ai un petit compteur à main. Je rajoute 37 clics d'un côté, 25 de l'autre. Ensuite, on avance un peu. 85 cendrées. Et pendant ce temps, le poussin d'aigrette, là, qui n'est pas du tout content d'être dérangé, il me dégueule son poisson sur la tête. Un peu plus loin, alors, on trouve des poussins de hérons crevés à tous les stades de croissance et de décomposition. Et on y passe la journée, on a fini une héronnière où il y a 800 nids en tout, et puis on va à la suivante et à la suivante. Et voilà comment on arrive à avoir des chiffres sur les populations de hérons, il faut y passer par là. Mais bon, ça fait des souvenirs. Je suis quand même assez content de ne pas m'envoyer ça tous les ans. Parce que bon, le comptage de foule, que la seule chose qu'on risque, c'est de se geler les doigts. On peut avoir aussi les affûts au hibou grand-duc qui commence au mois de décembre, parce que les rapaces nocturnes paradent très tôt en saison, donc ben là, on se met dans un vallon, dans l'obscurité, et puis on attend. On attend, il fait froid, et puis au bout d'un moment, puis c'est fini. Voilà. J'ai eu le chant du mal, c'est bon, je note, il est là. J'ai eu le chant du mâle, j'ai pas eu la femelle, c'est cool, ça veut dire que la femelle elle est en train de couver. Bon, souvent le grand-duc on va faire quand même un peu mieux que ça, parce qu'on y va plutôt entre chien et loup qu'à la nuit tombée. Et quand il vient se poser sur une branche, quand il commence à circuler, vu qu'un grand-duc c'est énorme, quand on le voit ça fait quand même son petit effet. Même quand on le voit de loin sur une branche, tiens, pourquoi il y a un lynx couché dans le cèdre là-bas? Ah ben non. C'est juste un grand-duc. Voilà, il y a un certain nombre de rencontres comme ça, qui, même si ce n'est pas des espèces rares, ça laisse toujours son impression. Il y a les comptages de colonies de goélands, c'est un peu comme les hérons, sauf qu'on est en milieu ouvert, et puis que les goélands, ils n'aiment pas du tout qu'on vienne compter les nids, donc ils viennent le faire savoir. Baisse la tête, oui. Un goéland marin, c'est gros, c'est un gros bec. Certains collègues ont fait des surveillances d'aigle de Bonelli. L'aigle de Bonelli, c'est le rapace le plus rare de France, on a 20 couples. Pareil, il fait des. Quand il se rend compte qu'on a repéré son aire, eh ben, il pique. Alors c'est que de l'intimidation, mais s'il vous fonce dessus, par sécurité quand même. Parce que s'il décide de faire plus que de l'intimidation, ça peut faire un peu mal. Il n'y a pas eu de cas de gens blessés, trop blessés par des rapaces. Mais il y a quand même quelques cas. Avec les rapaces nocturnes de gens qui ont perdu un œil en s'approchant trop, d'une simple chouette-ulotte. Hein. Un gars, il a voulu faire une photo, et puis ben, la femelle, au bout d'un moment, elle a décidé que trop, c'était trop. Donc, les bagueurs suédois qui vont baguer au nid les poussins de chouette de l'Oural, donc, chouette de l'Oural, c'est Maous, hein, c'est presque aussi gros qu'un grand-duc. Non, c'est pas le harfang. C'est une chouette très nordique, mais c'est pas celle-là. C'est une espèce forestière, la chouette de l'Oural. Ils mettent un casque de moto intégral, hein, comme ça, on est tranquille. De toute façon, voilà. Son surnom, c'est chouette frappeuse. Donc, voilà. Faut pas la déranger. Alors, toujours à propos de chouette, une petite anecdote rigolote. Souvent, les rapaces nocturnes, comme forcément on ne les voit pas trop, pour vérifier s'ils sont là, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de la repasse. Alors la repasse, c'est vous prenez un magnétophone et vous diffusez le champ et dans l'espoir de faire réagir le mâle qui est cantonné dans les environs. Donc il faut y aller doucement, il ne faut pas le harceler, le pauvre, parce que bon, le champ, ça veut quand même dire « c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, dégagez de là ». Donc, on n'est pas là non plus pour perturber une espèce protégée pour rien. On lance le chant pendant une minute, et si l'espèce répond, ben on le note. Et il y a une toute petite chouette, à la fois nordique et montagnarde, qui s'appelle la chouette chevêchette. Elle est grosse comme le poing. C'est une chasseuse de petits passereaux. Et donc elle capture tout ce qui est genre mésange, roitelet. Et elle provoque une telle psychose chez les passereaux forestiers que quand ils l'entendent, ils poussent des cris d'alarme d'un genre très particulier, qui est vraiment spécifique à l'alarme sur alerte chouette chevêchette dans le quartier. Ce qui fait que quand vous diffusez le chant de la chevêchette, c'est pas forcément elle qui va répondre, mais si vous déclenchez ces cris d'alarme chez les petits passereaux de la forêt, c'est qu'il y a une chevêchette dans le coin. Parce qu'assez curieusement, c'est pas inné. C'est-à-dire que les passereaux ne vont adopter ce comportement que s'ils ont vraiment eu affaire à une chevêchette il n'y a pas très très longtemps. Il y a des réactions d'alarme qui sont tout à fait instinctives et qui ne prouvent pas du tout la présence d'un prédateur dans le coin. Mais dans le cas de la chevêchette, c'est le cas. Et c'est comme ça qu'on c'est le seul oiseau qu'on peut inventorier par des indices qui sont donnés non pas par l'espèce, mais par d'autres. Donc c'est comme ça qu'elle a été découverte récemment dans le Rhône. La première mention rhodanienne de la chouette chevêchette, ça a été à la Repasse. Bon, finalement, le collègue a repéré l'individu. Hein, donc on a pu avoir la preuve formelle. Donc voilà, c'est le genre de petits trucs du métier et qui utilisent les connaissances sur l'écologie des espèces. Donc la chevêchette, la chouette de Tengmalm, de même que le bec croisé des sapins, ça fait partie de ces oiseaux qu'on trouve soit en Scandinavie, soit en montagne. C'est des espèces relictuelles de l'époque glaciaire. Il en est resté des populations, pareil les lagopèdes, les tétras. C'est très commun dans le nord de la Scandinavie, et puis on en a en montagne. Population un peu isolée et dont l'avenir est un peu incertain. Cela dit, la Tengmalm et la chevêchette sont toujours en expansion. Et on en a même dans le département du Rhône, qui est, comme chacun sait, connu pour ses fiers sommets couronnés d'une neige éternelle. On a quand même deux bosses qui dépassaient les 1000 mètres, hein, attention. Et donc on a un peu ces espèces-là, évidemment, objet de toutes les. De toutes les attentions. Je ne sais pas du tout où j'en suis là niveau horaire. Tiens, j'ai un mot sur Facebook d'un collègue qui est un chasseur de reptiles invétérés. Ce gars, moi j'arrive quand je passe le long d'une haie, j'essaye de trouver des serpents, j'en trouve aucun. Lui, il arrive, il plonge et il ramène la couleuvre comme ça. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Il est tout fier tous les ans de nous montrer sa première obs de vipère de l'année. Il adore les vipères. Faut bien qu'elles vivent aussi, les vipères. Hein, et maintenant, vous savez qu'on n'en largue pas par hélicoptère. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Oui.
Ben, tu as beaucoup parlé de l'inventaire des oiseaux, mais plutôt de la protection. Si tu pouvais en dire un peu plus sur ce qui se passe, notamment avec le diocèse de Lyon, je sais qu'il se passe des choses.
Bon, avec le diocèse de Lyon, ça démarre quand même à peine. Hein. Donc, en fait, la protection, c'est extrêmement varié. En l'occurrence, là, on a posé un nichoir à faucons pèlerins sur l'église de l'Annonciation à Vaise. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une horrible église moderne. Bon, elle a une excuse. L'original a été rasé par les Américains en 1944 pendant un mariage. Les Américains, quoi. 80 morts, dont les mariés. Ouais, un grand classique des bombardements américains. Donc cette église, elle a un clocher très 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 élevé, ce qui fait que le faucon pèlerin l'adopte en hiver, puisqu'on a des oiseaux qui sont présents uniquement en hiver. Ça fait un bon perchoir pour surveiller ses proies, puisque c'est un chasseur d'oiseaux. Donc comme c'est une église postérieure à 1905, donc appartenant au diocèse, on a travaillé entre la LPO et le diocèse pour faire poser un nichoir. L'idée étant que ces oiseaux qui viennent hiverner se disent « Ah mais tiens, finalement, si je restais, il y a l'air d'avoir quelque chose de sympathique là pour élever ma petite famille. » Donc ça a toujours commencé comme ça, la nidification du faucon pèlerin en ville. On lui met un nichoir sous les pattes et au bout d'un moment, il reste pour l'utiliser. Donc affaire à suivre. Là, c'est une mesure de protection relativement simple. La protection, En gros, ça consiste de toute façon à fournir à une espèce le gîte et le couvert, c'est-à-dire un milieu utilisable pour la reproduction et des ressources alimentaires, selon qu'il manque l'un, l'autre ou les deux. En l'occurrence, le faucon pèlerin en ville, ce n'est pas la bouffe qui manque, c'est plus les sites de nidification. Donc voilà l'idée de poser un nichoir.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de domestication ?
Non, parce qu'il viendra s'il veut. On n'en amène pas le faucon, hein. On met le nichoir, mais on n'amène pas le faucon.
David, tu faisais 25% du temps sur le terrain ?
Oui, je n'ai pas à compter, mais ça doit être de cet ordre-là. Oui, mais c'est ça. Ou Excel ou SIG. Hein. Oui, effectivement, on en a besoin. Alors après, c'est vrai que dans mon cas, c'est un peu un minimum, je pense, parce qu'il se trouve qu'on a peu de dossiers qui nécessitent du terrain en saison de migration et en hiver. Si on avait, par exemple, à faire une étude d'impact relative à une installation d'éolienne, là, on aurait besoin de terrain tout au long de l'année pour savoir avec précision comment les oiseaux migrateurs utilisent le site. D'autant plus que dans le Rhône, comme le relief n'est pas de très grande amplitude, les oiseaux ne sont pas très, très canalisés, ils peuvent passer un peu partout, donc on ne peut pas vraiment prédire si le site est vraiment à enjeu ou pas avant d'être allé voir. Mais comme on n'a pas vraiment de dossier comme ça, on n'a pas beaucoup de terrain à faire en hiver, mais par contre, d'autres collègues en ont beaucoup plus. Ceux qui bossent sur les chauves-souris, ils ont évidemment des prospections printemps-été, mais aussi les comptages de gîtes d'hibernation en hiver. Ceux qui ont beaucoup de zones humides dans leur département, ils vont avoir un gros travail sur les oiseaux migrateurs et hivernants. Donc en fait, ça dépend des enjeux. Et moi, comme je bosse quasi exclusivement sur les oiseaux nicheurs, ma période de terrain est du coup très ramassée. C'est-à-dire que du 15 mars au 30 juin, je suis sur le terrain quasiment tous les matins, à peu près au lever du soleil. Donc ça veut dire se lever de plus en plus tôt, forcément. Mais le reste du temps, très peu. Ceux qui travaillent sur les amphibiens, ça va commencer encore plus tôt, dès début mars, selon la température, voire fin février. En fait, dès qu'on va avoir un petit peu des passages de météo douce et humide, à partir du 20-25 février, ils vont devoir aller voir s'il n'y a pas des amphibiens qui sortent. Ceux qui bossent sur les reptiles, à l'inverse, vont voir leur saison prolongée jusqu'en septembre. Idem pour les insectes. Oui, c'est ce que j'ai dit ce matin. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les chiffres que j'ai donnés ce matin prennent plutôt comme base les années 70. De même, j'ai dit pour les chauves-souris qu'on avait un chiffre à partir de 2006, parce qu'avant, en France, on n'avait pas de données fiables sur les chauves-souris. On a quand même un faisceau d'indications, de mentions espèces très communes partout, tout ça, qui... sans être très précise, nous renseigne quand même. Quand on sait maintenant que c'est une espèce qui est réduite à 100 couples dans le Midi ou 3 couples dans le Midi, si elle était notée très commune en France par Noël Maillot en 36. Donc Noël Maillot, c'est l'auteur d'un des premiers inventaires ornithologiques complets avec une mention d'abondance et de répartition pour la France. Donc on a ce point en 1936. Ça nous donne quand même déjà une idée. Mais de fait, les tendances sont plutôt calculées à partir de points dont on sait qu'ils correspondaient déjà à une situation dégradée par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Et, par rapport au comptage, est-ce que vous utilisez par
exemple des robots ? Ça coûte cher et ça n'a pas beaucoup d'autonomie. Mais le principal problème, c'est qu'à mon avis, ça ferait zoner les piafs. Ça provoquerait du dérangement. Voilà. Faire zoner, c'est faire décoller, quoi. Voilà, donc, on y a pensé, pas tant pour les comptages, parce que imagine, tu as une réserve naturelle en eau en hiver, tu envoies un drone, tout va décoller. Hein. Pour eux, ça, ils vont l'interpréter comme un rapace. Oui, mais quand on veut compter la réserve naturelle en question, on ne se balade pas à découvert, on se met dans un observatoire et on est caché, quoi. Effectivement, la silhouette dressée fait décoller les oiseaux. On les approche d'ailleurs, quand le réseau routier le permet, bien plus efficacement en voiture qu'à pied, parce qu'ils n'associent pas ça aux prédateurs. Mais le drone, ils l'interpréteront comme un rapace, ça y a aucun doute. On avait pensé tester la chose pour la surveillance des nids de busards. Donc les busards, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, ils nichent à terre. On essaye de protéger les nids, donc ça nécessite de savoir déjà exactement où ils sont et à quel stade ils en sont. Mais la crainte de provoquer un dérangement est trop importante. À ma connaissance, ça n'a pas encore été testé, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de faire échouer une nichée de busards cendrés. Il y en a probablement qui vont tester quand même, mais là j'ai pas de retour d'expérience. Mais voilà, ça serait quand même très délicat, à part pour certains types d'inventaires très, très particuliers. On a toujours cette limite quand on veut compter, notamment les espèces assez rares, que la protection passe en premier. Donc, qu'on va plutôt renoncer à trouver un nid plutôt que risquer de faire échouer une reproduction.
Est-ce que vous avez une espèce préférée
Oui, l'outarde canepetière.
Qu'est-ce qui la rend spéciale à
Bon, l'outarde canepetière, voilà, sinon vous avez tous des portables. Canepetière, alias petite outarde. Donc c'est un assez gros oiseau qui niche dans les champs, au sol, encore une et qui a un comportement de parade assez spectaculaire. Donc le champ ressemble à rien, c'est une espèce de craquement, un peu comme une gousse de genêt qui craque. Mais le mâle se pavane là dans ses parcelles en lançant le cou en arrière. Il gonfle les plumes noires et blanches du cou. Bref, c'est très spectaculaire. C'est une espèce très rare. Il y a entre 1000 et 1500 couples en France. Et donc, j'ai eu la chance de faire mon stage d'ingénieur sur cette bestiole dans le Poitou en 98. C'était au siècle dernier, il y avait encore des oiseaux. Non, c'est une espèce qui était vraiment sur la pente, droit vers l'extinction, avec une baisse de 80% en 20 ans. Toujours les mêmes problèmes de couvert végétal inadapté, de destruction des nichés par les travaux agricoles. Et là, les actions de protection ciblées ont permis d'amortir un peu la chute, de stabiliser les populations. Donc elle reste très fragile, elle reste objet de toutes les sollicitations. Donc moi, je suivais deux populations, en fait, sur des secteurs proches. Une population où on entreprenait des mesures agri-environnementales, on contractualisait avec les agriculteurs pour avoir des couverts végétaux ou des bandes enherbées favorables à l'outarde. Et une population témoin à quelques kilomètres de là, les deux faisant une taille d'une dizaine de mâles chanteurs. On compte en mâles chanteurs parce que les nids sont quasi impossibles à voir. Et donc on comparait l'évolution des deux pour pouvoir juger de la pertinence de nos mesures. Donc comme c'était mes débuts en ornitho, c'est quand même vraiment une sacrée bestiole, c'est resté, bien que j'en ai très rarement revu depuis.
Et
bien ça a plutôt bien marché, puisque je disais, on a réussi à enrayer le déclin de cette espèce. Après, la pérennité de ces mesures, qui nécessitent évidemment un peu de budget, a été très complexe. Mais globalement, on y est arrivé. Donc il fallait à la fois des parcelles où elles puissent nicher sans risquer de voir son nid détruit, et aussi des ressources alimentaires, notamment en criquet. Donc, problématique insecticide.
Moi, je voulais savoir, vous, dans l'observation que vous faites de la nature,
Oui, clairement. Alors c'est vrai que je préfère voir mes impressions de terrain, je préfère les confronter après aux données, parce que le ressenti de terrain peut facilement être erroné, parce qu'il y a plein de biais hein, dans le simple fait de, voilà, je me balade comme ça, mes souvenirs ils sont ce qu'ils sont. Mais là, oui, je le constate, et c'est corroboré par les chiffres, c'est corroboré même par mes propres résultats de prospection d'il y a 10-15 ans. Donc oui, là, sur ces 15-20 dernières années, je le vois très nettement, et sur certaines espèces de manière très nette, même globalement, c'est plus difficile qu'avant de voir certaines espèces, de voir beaucoup d'espèces, même les communes. Historiquement, oui, d'État. Ces dernières années, vraiment totalement disparues en tant qu'espèce nicheuse, non. Non. Y en a au contraire quelques-unes qui sont apparues, mais alors vraiment avec des effectifs dérisoires. Par exemple, le pigargue à queue blanche niche en France maintenant, il y a un couple. Par contre, des espèces qui sont tombées à une poignée de couples, vraiment tenues sous perfusion, oui, comme l'aigle de Bonelli, la pigrièche à poitrine rose. Ça a été le cas de l'outarde canepetière. Le Milan Royal, c'est pas glorieux non plus. Le pic cendré non plus. Le gomouche à collier, voilà, tout ça, c'est des espèces dont il y a moins de 1000 couples, voire encore beaucoup moins, voire moins de 50 ou moins de 10 dans certains cas. Après, des disparitions à l'époque historique, oui. Par exemple, la grande outarde. Donc, par rapport à la grande outarde, la canepetière, c'est un canari. Hein. Le mâle de grande outarde, c'est l'oiseau le plus lourd capable de voler, c'est-à-dire qu'il peut faire 20 kilos. Donc, la taille et le poids d'un bon gros cygne tuberculé adulte. Cygne, un gros cygne de base. Et donc il a une parade encore plus spectaculaire que la canepetière, mais alors celle-là je ne l'ai jamais vue. Elle a disparu de France vraisemblablement à la fin du 19e. Donc là, totalement disparu. Il y a quelques observations rarissimes d'individus égarés, mais c'est tout.
Elle existe encore ailleurs?
Oui, elle niche en Espagne, elle doit nicher peut-être en Ukraine. Voilà, elle n'a pas disparu au niveau européen, mais elle a disparu de France, son air s'est contracté, quoi. Ben, disons que c'est aussi un thème que j'ai abordé cet après-midi, donc je voulais éviter d'être trop redondant. C'est vrai que, pour reprendre ce dont on a parlé hier soir, le rapport qu'on a à l'animal en tant que naturaliste, c'est vrai que c'est rarement un lien avec l'animal individu, comme mettons le fauconnier ou l'éleveur de chevaux ou de... C'est une sorte. L'émotion esthétique qu'on a devant des observations naturalistes, elle est plus abstraite en ce sens que même quand on observe spécifiquement un oiseau, on le prend comme représentant de son espèce, comme part d'une sorte de tableau vivant, quoi. J'aime beaucoup les situations où j'ai l'occasion de voir un oiseau de près, ne serait-ce qu'une mouettrieuse en hiver, hein, ça se laisse facilement approcher. Regardez la perfection du plumage, il n'y a rien qui dépasse. Après, j'aime aussi beaucoup rencontrer un cortège caractéristique d'un milieu. Voilà, c'est vraiment comme si je voyais un beau paysage à travers ma liste d'espèces. Et si je me dis qu'il y a le milieu pour une espèce, mais qu'elle n'est pas là, Je veux dire, là, ça ne va pas. Il manque quelque chose. Non seulement d'un point de vue scientifique, où je vais me dire, merde, c'est un milieu pourri, ou au contraire, je sais que c'est parce que l'état des populations est tellement mauvais que l'espèce occupe plus tous les milieux favorables. Mais c'est vraiment... Ouais, il manque un truc au tableau. Si je vois que des espèces banales, alors que le milieu a l'air... et que je devrais voir la petite tache rousse de la pigrièche sur son buisson, et ben... Voilà, il y a quelque chose qui manque, et à l'inverse, quand je me dis, là c'est un bon milieu à pigrièche, quoi. Il y a un croisement de haies d'épineux avec la prairie pâturée à côté, là, tous les coups, j'en trouvais une, je la cherche, et boum, elle est là. Voilà. Là, c'est le pied. Et c'est pas juste la satisfaction d'avoir eu raison. C'est vraiment... Ouais, le truc qui se met en place, le tableau qui est complet, et du coup l'émotion est complète aussi.
Comme une partition,
parce que
oui. Qui voyait vraiment la partition.
Peut-être, oui. Mais sauf que c'est pas nous qui composons. C'est pas nous qui composons, c'est ni même nous qui jouons. Donc, pas chef d'orchestre, plutôt simplement le mélomane. Hein. La relation plus forte avec les animaux comme individus va plus se rencontrer, je pense, chez les rapaceologues. Je le vois chez mes collègues buzardeux. Donc, pour ceux qui s'investissent spécifiquement dans la protection des buzards, on parle des buzardeux, c'est un peu une sorte de corporation. C'est des gens qui sont capables de passer des dizaines d'heures à se rôtir au soleil pour localiser un nid de buzard, ou des dizaines d'heures à négocier avec un agriculteur particulièrement mal embouché pour obtenir de protéger le nid. Alors bon, au bout d'un moment, on finit par sortir les vers de gnôle et puis hop, protéger le buzard. Non, ils font un boulot absolument démentiel sans lequel les buzards cendrés et Saint-Martin auraient disparu de France depuis longtemps. Et donc eux, ils ont vraiment une proximité encore plus incarnée. Avec l'espèce, je dirais. L'espèce. Pas l'individu, mais vraiment l'espèce en tant que telle. Ils vont ressentir une émotion très forte à voir. C'est vrai qu'avec un buzard cendré, c'est un oiseau magnifique. Il est extrêmement léger. Donc quand il chasse, au ras de la prairie, il oscille comme ça, sans arrêt, comme si le moindre coup de vent le faisait bouger. Il est toujours à la limite du décrochage. Et puis hop, il cabriole, il tombe sur son campagnol. Bref, ils ont vraiment une admiration, je dirais, sensuelle pour cette espèce-là. Et c'est ce qui les incite à mettre autant d'énergie dans sa protection. Ils ont une patience que moi, j'aurais pas, même pour moutarde. Je crois que ce serait compliqué de... Enfin, disons, me focaliser autant sur une espèce, je sais pas si j'y arriverais. Donc voilà, eux, ils ont une relation qui est encore un peu différente. Et puis les entomologistes, c'est encore aussi particulier, parce qu'il faut qu'ils capturent l'animal quelquefois, et ils vont devoir le tuer pour l'identifier. Les ornithos se mettent rarement à l'entomologie à cause de ça. Ils hésitent. Quand un entomo voit un papillon inattendu, il le capture. Il sait que s'il en voit un, c'est qu'il y en a au moins 2 ou 3 000 aux environs. Donc il peut très bien se permettre de prélever un spécimen. Nous, quand on voit un couillou à grand sourcil, il n'y en a pas 50 aux environs, il n'y a peut-être que lui. Donc, détruire est impensable, hein, c'est fini les spécimens collectés. Du coup, on hésite à franchir ce lien. Et vous voyez, il y a un lien avec l'animal qui est encore différent. Et ce, alors même que les entomos sont passionnés, sont complètement fascinés, parce que le monde des insectes est incroyable. L'écologie et la biologie des insectes, il y a des trucs, des façons de survivre chez les insectes complètement folles. À côté, les oiseaux, c'est fade et insipide, et pourtant, Dieu sait que des fois, ça peut être étonnant.
Je vais casser un peu la poésie, mais quelles sont vos relations avec les politiques ?
Ah, je confirme, tu casses la poésie. Essaye d'encaisser les insultes, parce que c'est souvent ça. En ce moment, ça devient même violent. Hein. avec M. Bouquier, ça va même au-delà des insultes, ça va directement aux menaces physiques. Pour faire comprendre qu'on travaille pour le bien commun, tout en essayant de ne pas avoir les chines trop souples. Montrer que, on a une force de conviction, une solidité d'argumentaire qui font qu'on ne va pas tout accepter, on ne va pas avaler n'importe quelle couleuvre, on ne va pas accepter n'importe quelle compromission pour se faire bien voir et toucher trois sous. C'est évidemment très difficile, puisqu'en ce moment, ils cherchent à nous couper les vivres par tous les moyens. Mais voilà, le grand enjeu, c'est de montrer qu'on n'est pas un lobby qui défend son intérêt à lui, mais qu'on travaille pour le bien commun, que ce monsieur le politique qui devrait le comprendre, et au moins ne pas nous mettre trop de bâtons dans les roues. Et rester ferme sur nos convictions, parce que, encore une fois, on a des arguments solides pour dire que la situation est grave et qu'il faudrait faire ceci, cela. Qu'on n'est pas simplement dans la petite négociation de pouvoir. Donc voilà, très très compliqué.
Mais en fait, vous n'avez pas grand-chose à voir avec le parti.
Rien,
vous
même.
Rien.
Ouais. Non, il y a au niveau local, il y a des gens d'Europe Écologie qui se préoccupent aussi du thème de la biodiversité, qui sont sensibles, qui vont choisir de monter des partenariats avec nos assos. Après, la direction nationale, ce thème-là, elle s'en fout complètement, parce que politiquement, c'est pas porteur, ou pour d'autres raisons, mais en tout cas, non, on a pas grand-chose au niveau institutionnel à voir avec eux.
Mais qu'est-ce que tu peux dire de l'avant-système de la différence entre la France et la Suisse sur ça? Parce qu'on en parle, nous, qui sommes Suisses, et ça nous semble qu'ici, le lien avec la politique, enfin, je ne sais pas comment tu vois ça avec la France, mais le lien avec la politique, mais même le milieu engagé des associations professionnelles de la nature en Suisse, un poids, nous, ça nous semble vachement plus important et ils sont vachement plus écoutés.
Sur le thème de la biodiversité, c'est vrai qu'en France, on n'a jamais réussi à mobiliser la population. C'est un thème qui apparaît globalement par rapport aux autres thèmes écologiques. Pas sérieux, hein, les petites fleurs, les petits oiseaux, gna gna gna. Il y a peut-être des raisons historiques à ça. On est resté longtemps un pays de chasseurs aussi. Bref, c'est un peu difficile à comprendre, et probablement aussi que nos assos ont surestimé constamment leur notoriété et que du coup, elles n'ont pas mesuré à quel point globalement les Français ignoraient tout de ces assos, de leur travail et même de l'état de leur propre biodiversité. Quand vous dites à un Parisien, un Lyonnais qu'il y a 60, 70, 80 espèces d'oiseaux qui nichent dans sa ville, il commence par vous traiter de menteur. Pour lui, ça lui paraît une invention aberrante d'un idéologue drogué. On inventerait ces espèces pour se faire voter des subventions. Voilà, le niveau d'ignorance de la biodiversité, il en est là. La LPO, au niveau français, donc c'est la plus grosse asso naturaliste de France et de très loin, elle a moins de 60 000 membres. Elle est passée péniblement donc de 30 000 à une petite soixantaine de 1000 en 15 ans. Son homologue britannique en est à 1,2 million. On n'est pas sur les mêmes échelles. Les Français ne se sont pas du tout appropriés la thématique biodiversité. Ce qui fait que, du coup, on a un poids politique très faible. Alors, à l'LPO Rhône, on est 11 permanents. Et le budget actuellement, c'est donc études, animation, tout confondu, ça va être 500-600 000 euros.
Pour le Rhône,
quand même. La LPO nationale, Donc c'est une assez grosse structure, elle doit avoir en tout 80 salariés, en sachant que donc ils sont implantés en Charente-Maritime, ils ont pas mal de personnel qui gère des réserves naturelles. Donc des conservateurs adjoints, tout ça, tout de suite ça nécessite du monde, parce que c'est des réserves en prairie, donc il faut du pâturage, donc voilà, il faut des moyens humains. Mais après, sinon, c'est des coordinateurs nationaux, aussi bien que des gens de terrain dans le Grand Ouest. Mais voilà, en tout, naturalistes salariés en France, on doit être quelques centaines. Il y a une quinzaine d'années, un footballeur avait dit « Oui, en fait, si on est payé si cher, c'est normal, c'est parce qu'on est très très peu nombreux parmi tous ceux qui voudraient faire ce métier. » Ça nous avait bien fait rigoler, parce que pour nous, les naturalistes, c'est encore bien pire. Hein. Le ratio entre ceux qui voudraient le faire et ceux qui le font réellement doit être à peu près le même. Et pourtant, en toute ma vie, je ne gagnerai jamais le salaire mensuel de ce monsieur. Enfin, peut-être à peu près, parce que ce n'est jamais qu'un latéral droit de première division. Mais vous voyez l'idée. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux et les bénévoles non plus, puisque a priori, il n'y aura que 10-15 000 personnes qui vont transmettre de la donnée sur Faune France. Pourtant, rien qu'au niveau des oiseaux, c'est pas très très compliqué.
Est-ce que du coup la situation en Bretagne est mieux? Les qui sont arrivés à faire plus de choses?
Eh bien bizarrement, pas forcément. Je ne connais pas par cœur l'état de la biodiversité en Grande-Bretagne, mais je sais qu'ils ont quand même pas mal d'espèces très communes qui sont en très mauvais état de conservation. Comme quoi, ça ne fait pas forcément tout. Mais je ne saurais pas vraiment dire concrètement pourquoi. Hein. Je pense qu'il y a eu des effondrements rapides qui les ont surpris. Mais par exemple, les alouettes ou les moineaux sont en très mauvais état de conservation en Angleterre et au Pays de Galles. Bon, par contre, ils ont des réservoirs de biodiversité, des tourbières, des zones humides, et pas seulement en Écosse. Qui sont... Et puis là, c'est vrai que je vois régulièrement sur Twitter, ils lancent des comptages participatifs de telle ou telle espèce, où là en ce moment c'est les papillons, ils arrivent à mobiliser très facilement des dizaines de milliers de personnes pour au moins observer et transmettre de l'info, et donc récupérer de l'info rapidement, en masse, sur n'importe quel groupe de faune. Mais voilà, ça n'a pas empêché leurs écosystèmes de se dégrader considérablement.
Mais ils réagissent plus facilement aussi que nous en France. Ils ont fait il y a quelques années un plan de biodiversité, mais le plan de biodiversité en question, c'était un PDF d'une centaine de pages qui indiquait pour tous les types de milieux et de bâtiments dans lesquels on pouvait intervenir, comment mettre en place, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, que ce soit un ensemble pavillonnaire, un immeuble, que ce soit... le cimetière de la paroisse au milieu duquel il y a l'église, enfin c'est vraiment ça fait presque, il y a presque 10 ans ce document. Alors qu'en France, on lancerait l'idée d'un tel truc, mais
après, le problème n'est pas vraiment, pas seulement d'avoir les documents techniques, c'est surtout la volonté derrière.
Bien sûr, mais il y aura plus de relais. Et je, par ce que tu disais sur la volonté, j'ai un peu menacé le sujet de la manière dont les églises, les croyants, les personnes ayant même un peu spiritualité réagissent à ce sujet-là. En Grande-Bretagne, les églises, ça fait 10 ans qu'elles sont, 10-15 ans qu'elles sont écolo, et la biodiversité, c'est un thème dont les églises à l'école prennent en charge. Ça ne fait pas rire, les paroissiens ne disent pas qu'ils sont illuminés, c'est quelque chose qu'ils ont intégré depuis plusieurs années. Donc, ils ont une crise qui est la même qu'ici, mais il semblerait qu'ils aient une réaction peut-être un peu plus rapide avec. Car ils ne font pas les morts, ils ne font pas les sous, ils essayent de faire ce qu'ils veulent.
Enfin, en tout cas, chez eux, le thème de la biodiversité n'est pas déconnecté, comme chez nous, des autres préoccupations écologiques. Ça, cette déconnexion, elle est vraiment très très française. Moi, franchement, j'arrive pas à me faire une idée bien précise. Et je pense que personne ne le sait vraiment, et que là où ça s'entretient un peu, c'est qu'au niveau justement connaissance, sensibilisation, on navigue un peu à l'aveuglette. On parle aux gens de ce dont on pense que ça va les faire réagir, mais on n'a pas vraiment de, je disais qu'on se leurre sur la notoriété. Il y a 15 ans, les patrons de l'LPO France étaient persuadés que leur acronyme était aussi connu que celui des grands clubs de foot du moment. Bah non, à peu près 1000 fois moins. Et du coup, on ne sait pas trop comment parler aux gens parce qu'il doit y avoir, un barreau qui manque sur l'échelle, tu vois, entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils souhaitent apprendre et ce que nous, on donne.
Parce que du coup, en discutant avec les Britanniques, eux, ils ont déjà un historique de comme enfin, c'est qu'eux, ils ont une culture de comment les gens...
C'est très, très vieux, leur tradition de se préoccuper d'ornithologie. Ça fait un siècle. Donc, du coup, ils n'ont pas du tout eu les mêmes cheminements que nous. Et je ne pense pas que ça nous avance. Ce n'est pas transposable. Peut-être une dernière question ou, Oui.
Est-ce que vous en avez parlé un petit peu? Est-ce que vous pouvez développer les relations que vous avez faites, pas forcément juste vous, mais les ornithologues en général, les fermiers avec les chasseurs?
Ça peut aller du travail en bonne intelligence jusqu'à la tentative d'homicide. Chez les chasseurs, ça va un peu par vague, la crispation ou la détente, sans mauvais jeu de mots. Quand il y a de la crispation, quand il y a de la crispation sur la détente, bah oui, on a des conservateurs de réserves naturelles qui ont été mis en joue ou même qui se sont fait tirer dessus. Après, c'est quand même pas la situation la plus courante. Parce que malgré tout, si les écosystèmes s'effondrent, ben eux aussi, ils en pâtiront. Donc, par exemple, dans le Rhône, ils font un boulot très intéressant sur la conservation des haies. Quand on met nos travaux en commun, sous l'égide du département, quand on le faisait encore, on s'aperçoit qu'on a là à peu près les mêmes approches, les mêmes diagnostics et les mêmes préconisations. Les chasseurs, ils ont quand même une approche ciblée sur le fait de faire proliférer un certain nombre d'espèces, celles qui les intéressent. Et puis, le reste, si incidemment ça en bénéficie, tant mieux, sinon ils s'en fichent. Donc la prolifération du sanglier, par exemple, ça ne les gêne pas. Par contre, les agriculteurs, c'est une autre histoire, les forestiers, pareil. Et puis, ils relâchent des bestioles, ce que nous, on ne fait évidemment jamais, quasiment jamais. Hein, les réintroductions, à des fins vraiment de protection, c'est rarissime, c'est très ponctuel, et c'est après un énorme travail scientifique destiné à vérifier si le milieu est capable de nourrir ces quelques bêtes qu'on va relâcher. On a fait quelques tout petits renforcements de population d'outardes, par exemple, à un moment donné, d'un gros programme scientifique pendant 20 ans. Les chasseurs balancent tous les ans des quantités de faisans et de perdrix, sans trop se préoccuper des questions génétiques ou même bactériologiques, puisque c'est des animaux issus d'élevage. Et du coup, ils n'ont pas la même approche des dynamiques de population, ce qui fait qu'il y a régulièrement des incompréhensions. Il y a quelques crispations aussi sur des sites ou des espèces ou des modes de chasse, qui fait que c'est très variable selon les régions. La chasse, maintenant, c'est vraiment plus la menace principale sur la plupart des espèces, bien qu'il puisse y avoir des cas où c'est vraiment gênant, comme l'ortolan, c'est du braconnage, c'est pas de la chasse. Mais la menace principale étant la destruction des milieux, logiquement, et dans la plupart des cas, on arrive à travailler avec eux pour contrebattre ces menaces-là. Bon, on échoue avec eux, mais au moins avec eux. Mais il y a eu quand même, notamment en 98-2000, vous avez fait notamment une grande démonstration de force en défilant à Paris. Dans cette foulée-là, comme ils se sentaient très forts... Les plus cinglés avaient provoqué des incidents très graves. Il y avait même eu mort d'homme dans certains cas.